Vous écoutez RFI, Radio France Internationale, il est 6h à Paris, 4h en temps universel.
RFI Matin.
Le journal avec Jeanne Bartoli. Bonjour Jeanne.
Et bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Dans cette édition, la campagne pour le second tour dans sa dernière ligne droite en France.
Oui, après le dépôt des candidatures, les désistements ont été nombreux pour faire barrage à l'extrême droite malgré des consignes pas toujours claires dans le camp de la majorité présidentielle. À la une également une présidentielle le 6 octobre prochain en Tunisie. Mais dans quelles conditions? La question se pose après le communiqué de la présidence hier fixant la date du scrutin. On parle aussi dans ce journal de la guerre à Gaza. Des milliers de familles palestiniennes ont fui hier plusieurs secteurs du sud de l'enclave après un ordre d'évacuation de l'armée israélienne qui fait craindre une nouvelle opération militaire d'envergure. On parle également des tensions entre populations turques et syriennes sur fond de prémices de réchauffement entre les dirigeants des deux pays. Et puis de l'Euro de football, dernier huitième de finale hier, les Pays-Bas et la Turquie valident leur ticket pour les quarts.
En France, il est né dans la douleur, le barrage contre l'extrême droite en vue du second tour des législatives.
Oui, c'était hier la fin du dépôt des candidatures. Le décor est donc planté avant ce second tour. Ce sera dimanche prochain. Et si le nouveau Front populaire, l'Alliance de gauche, a été très clair dès dimanche soir, appelant tous ses candidats arrivés troisième dans leur circonscription à se retirer du côté de la majorité présidentielle, les consignes étaient moins claires. Oui, pour des désistements au profit des candidats qui respectent les valeurs républicaines. La question des désistements au profit des candidats à la France insoumise a fait débat jusqu'à la toute dernière minute, juste après la clôture de ce dépôt des candidatures. Le maire de Pau et président du Modem, François Bayrou, participait hier à une réunion à Paris. Reportage Valérie Gasse.
C'est dans le préau d'une école du 14e arrondissement de Paris que François Bayrou est venu participer à une réunion publique devant quelques dizaines de personnes. Objectif, expliquer les enjeux du second tour.
Le vote de dimanche, l'enjeu c'est... Est-ce qu'on laisse le Front National avoir la majorité absolue ou pas? J'espère que la réponse sera non.
Pour réussir à endiguer la dynamique du RN, la coalition présidentielle a retiré ses candidats au profit de la gauche.
Toutes les désistements qui devaient être faits ont été faits.
Mais la défaite est inéluctable pour la majorité sortante, alors François Bayrou essaie de penser au jour d'après.
Cette étape, c'est comment constituer un rassemblement de responsables capables de s'unir pour sortir le pays de l'impasse dans laquelle il se trouve.
Un rassemblement, mais avec qui dans la salle? Un homme l'interpelle.
Je pense que la force que vous voulez construire, elle ne peut réussir que si vous acceptez de prendre les gens de LFI qui sont raisonnables.
Je ne crois pas que Mélenchon puisse un jour faire partie de la force centrale.
S'associer à LFI, la plupart des participants y sont totalement opposés, comme Laurence.
Je ne pourrais pas, LFI, je ne peux pas.
Malgré la menace du RN, pour certains électeurs du centre, LFI reste un choix impossible.
Et le reportage de Valérie Gasse, c'est dans la première circonscription du Val-d'Oise. La candidate de la majorité présidentielle, Émilie Chandler, s'est maintenue derrière les candidats du Rassemblement National et du Nouveau Front Populaire. Même chose pour Loïc Signor dans la troisième circonscription du Val-de-Marne. Au total, selon un décompte de l'agence France-Presse, au moins 214 désistements ont été recensés pour le second tour de ces législatives.
En Tunisie, il a longtemps laissé planer le doute sur la tenue effective du scrutin. L'élection présidentielle aura bien lieu à l'automne.
Oui, le 6 octobre, date annoncée hier soir dans un bref communiqué de la présidence. Le mandat de Kais Saied, le chef de l'État tunisien arrivé au pouvoir en 2019, prend en effet fin dans quelques mois. Le président tunisien qui s'est arrogé les pleins pouvoirs en 2021 et s'est taillé une constitution sur mesure en 2022. Et cela pose évidemment la question des conditions dans lesquelles vont se tenir ce scrutin, Mathieu Galtier.
Ils sont pour le moment 16 candidat sur la ligne de départ, mais le président Kais Saied part avec une bonne longueur d'avance. Ses partisans mettent en avant la popularité du chef de l'État, élu en 2019, sous le slogan « Ce que le peuple veut ». Les opposants de Kais Saied reconnaissent leur retard, mais pour d'autres raisons. Depuis janvier 2023, une vingtaine de figures politiques de premier plan dorment en prison, accusées de complot contre la sûreté de l'État, de corruption ou de blanchiment d'argent. Rached Ranouchi, l'ancien président de l'Assemblée législative et chef du parti islamiste Ennahda, a déjà été condamné à plus de 4 ans de prison. Abir Moussi, la chef de file du parti Destourien Libre, qui rassemble des nostalgiques de l'ancien régime de Ben Ali, est incarcéré depuis l'automne dernier. Lotfi Mraihi est le dernier en date. Lundi, le président de l'Union populaire républicaine a été arrêté pour des soupçons de blanchiment d'argent. Kaïs Saïed doit prochainement faire publier la loi électorale qui donnera les critères d'éligibilité des candidats. Mathieu Galtier, Tunis, RFI.
Autre scrutin présidentiel aux États-Unis, Jeanne.
Oui, ce qui fait la une sur place, c'est l'état de santé de Joe Biden, apparu affaibli lors du débat télévisé face à Donald Trump, parfois confus. Il reconnaît une fatigue liée à ses déplacements internationaux et le camp démocrate semble commencer à se fissurer sur la question. Il est légitime de s'interroger sur l'état de santé de Joe Biden, a estimé l'influente ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, la porte-parole de la Maison-Blanche. Elle a exclu que le candidat passe un test cognitif. Tout cela fait évidemment les affaires de Donald Trump, dont la sentence de son procès new-yorkais pour falsification de compte a été reportée à septembre prochain. Premier effet concret de la décision de la Cour suprême qui a étendu l'immunité de l'ancien président des États-Unis.
L'actualité au Proche-Orient, en Israël, le gouvernement donne son feu vert à l'armée pour entamer la phase 3 de la guerre à Gaza.
Après la phase 1 et 2, à savoir les bombardements intenses, puis l'offensive terrestre, cette phase 3 est censée amorcer le retrait progressif des troupes israéliennes de la bande de Gaza, mais le maintien de l'occupation militaire du territoire palestinien. Cette annonce sonne comme un aveu d'échec, car les objectifs de la guerre menée par Israël, l'éradication du Hamas et le retour des otages n'ont pas été atteints. Israël a abandonné ses otages, dénonce Gilad Avron. 7 membres de sa famille ont été enlevés, 6 d'entre eux ont été libérés lors de la trêve de novembre dernier. Le 7e, son fils Tal, est toujours captif. Gilad Avron est au micro de Sami Boukhelifa.
Ce même gouvernement qui permet désormais à l'armée de se retirer de Gaza n'a cessé de répéter que le seul moyen de libérer nos otages était de maintenir une pression militaire. Évidemment, nous ne l'avons jamais cru et nous n'avons jamais été d'accord avec ça. Mais lorsque ce gouvernement passe son temps à plaider pour davantage de pression militaire à Gaza afin de libérer les otages, et puis tout d'un coup change d'avis et permet à l'armée de sortir de Gaza, pour nous, ça ne peut signifier qu'une seule chose. Le gouvernement a décidé d'abandonner les otages. Moi, je souhaite que mon fils revienne et que tous les otages soient libérés. Mais il semblerait que la question des otages ne soit pas du tout une priorité en Israël.
Et le témoignage de Gilad Avron au micro de Sami Boukhelifa. Et à l'instant, le ministère palestinien de la Santé a lui indiqué qu'une frappe israélienne dans le camp de réfugiés de Nour Shams, près de la ville de Toul Karem, dans le nord de la Cisjordanie occupée, a fait 4 morts. On parle à présent de ces tensions entre populations turques et syriennes. Elles font la une de l'actualité depuis quelques jours, avec des heurts aussi bien côté turc que syrien. En Syrie, le bilan des affrontements entre des manifestants et des gardes de position militaire turque a grimpé à 7 morts, plus de 20 blessés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les tensions restaient fortes hier au nord et à l'ouest de la province d'Alep, où des centaines de personnes ont manifesté pour protester contre des exactions à caractère raciste contre des réfugiés syriens en Turquie. Précision Paul Ralifé.
Les manifestations anti-turques ont éclaté presque simultanément en 15 points différents. Le principal foyer était situé à Afrin, un ancien fief kurde. D'importants heurts se sont également produits à l'ouest d'Alep, dans des régions contrôlées par les djihadistes de Hayat al-Tahrir Sham. Les cibles privilégiées des manifestants, dont une partie portait des armes, étaient les positions militaires et les symboles de l'influence turque, les points de passage frontaliers entre les deux pays, ainsi que les camions et véhicules immatriculés en Turquie. La rapidité avec laquelle le mouvement de protestation s'est propagé et un mode opératoire globalement identique mis en œuvre par les manifestants suscite un certain nombre de questions sur le caractère spontané de ces manifestations. Même si les images des violences antisyriennes en Turquie ont provoqué la colère d'une grande partie de la population à Alep et à Idlib, un mouvement de cette ampleur nécessite un minimum de planification et d'organisation. Ces protestations interviennent dans un contexte particulier, quelques jours seulement après des propos jugés conciliants du président Recep Tayyip Erdogan à l'intention de son homologue syrien Bachar el-Assad. Les principaux perdants d'un éventuel rapprochement syro-turc seraient les Kurdes et les djihadistes. Et c'est justement dans des zones d'influence de ces acteurs que les heurts les plus importants se sont produits. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Des tirs de missiles au nord, des exercices militaires au sud, la frontière entre les deux Corées continue d'être un terrain d'affrontement entre les frères ennemis.
Oui, lundi, la Corée du Nord a effectué le tir de 2 missiles balistiques tactiques. De son côté, Séoul a marqué la fin de l'accord militaire intercoréen avec pour la première fois en 6 ans des exercices militaires en bordure de la très militarisée ligne de démarcation. Précision Nicolas Roquin.
Un missile de courte portée capable de transporter plusieurs ogives, voici la nouvelle addition à l'arsenal nord-coréen. Cette innovation vient s'ajouter à une longue liste d'armes en mesure de perturber les défenses sud-coréennes. Daniel Pinkston, chercheur à la Troy University.
Plus leur capacité s'améliore en quantité comme en qualité, plus il sera difficile de se défendre contre eux. La Corée du Nord a conduit des essais pour obtenir des véhicules hypersoniques, des missiles à plusieurs ogives et des armes nucléaires tactiques. Au fur et à mesure qu'ils construisent leur arsenal, cela leur offre un potentiel supérieur afin de surpasser les défenses antimissiles et de répondre à leur adversaire au sud.
En réponse, Séoul a repris les exercices à la frontière, une pratique interdite par l'accord militaire intercoréen abandonné en juin. Des entraînements en tir réel ont donc eu lieu à moins de 5 km au sud de la ligne de démarcation.
Parfois, je suis un peu mal à l'aise avec cela, considérant que cela peut être excessivement provocateur. La Corée du Nord exprime son mécontentement vis-à-vis de ces exercices, à la fois verbalement comme matériellement. Je pense que la préparation militaire est nécessaire pour montrer que la Corée du Sud a les moyens comme la volonté d'imposer de larges pertes au nord si l'agresse.
Une stratégie qui maintient le fragile équilibre de la péninsule depuis plus de 70 ans.
Nicolas Roca. Enfin, on termine par les sports et du football. On connaît les affiches des quarts de finale de l'Euro. Dernière nation à avoir rejoint hier soir le dernier carré, la Turquie. Les images fortes de ces huitièmes de finale, résumées ce matin par Antoine Grenier.
Un but, des larmes et une bicyclette. Au rayon des souvenirs, ces huitièmes de finale de l'Euro laisseront le deuxième but le plus rapide de l'histoire de la compétition. Celui de Mehri Demiral pour la Turquie à la 58e seconde du match contre l'Autriche. Ce but-là permet aux Turcs d'atteindre les quarts de finale de l'Euro. Les larmes, celles de Cristiano Ronaldo, 39 ans, plus de 200 sélections, et toujours l'émotion qui affleure sous le maillot de son équipe nationale. Après son pénalty raté face à la Slovénie pendant la prolongation, CR7 s'effondre en pleurs, consolé par ses coéquipiers. Des larmes séchées quelques minutes plus tard, après une séance de tir au but remportée par les Portugais. Un Ronaldo réconforté, un Bellingham triomphant, bras écartés face aux tribunes. Le numéro 10 anglais portant à lui seul les espoirs des Sri Lions. Bellingham, auteur d'un retourné acrobatique à la dernière seconde du temps additionnel du match face aux Slovaques, offrant à l'Angleterre une prolongation qui lui permettra d'aller chercher la qualification pour les quarts. Un stade de la compétition que ne verra pas l'Italie. Autre moment fort, l'abattement italien au coup de sifflet final du match contre la Suisse est symbolisé par Gianluigi Donnarumma, le gardien italien, héros du sacre de l'Euro 2020, impuissant à stopper la déroute italienne 3 ans plus tard. Antoine Grenier, Hambourg, RFI.
Et c'est avec les sports que se termine le journal de Jeanne Bartoli. Merci Jeanne. À tout à l'heure, 6h13 à Paris.
RFI Matin.
Toute l'actualité de ce mercredi 3 juillet avec l'ensemble de la rédaction et à la une, la politique en France, bien sûr, on est à 4 jours du second tour des élections législatives. La liste complète des candidats est désormais connue. Plus de 210 candidats qui étaient qualifiés pour ce second tour, candidats de gauche ou du camp macroniste, se sont retirés afin de faire barrage au Rassemblement National. On va y revenir tout au long de la matinée. À suivre aussi dans quelques instants, le nouveau Premier ministre haïtien Gary Conil. Il est en visite à Washington. Il s'exprime au micro de Guillaume Nodin, notre correspondant. On l'écoute dans quelques secondes. Donc, à la une en Asie, nous serons aujourd'hui en Chine. Et puis la musique, parmi les titres qu'on écoute ce matin, Open the Road avec Leila McCallum. Leila McCallum, Open the Road, en playlist RFI, et on écoute ensemble tout à l'heure. Le nouveau Premier ministre haïtien est donc en visite aux États-Unis. C'est le premier déplacement à l'étranger de Gary Conil depuis sa prise de fonction. Avant de rejoindre New York, il était à Washington hier. Il s'est notamment entretenu avec le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, ainsi qu'avec des partenaires internationaux sur des questions financières. Priorité affichée du Premier ministre haïtien, le rétablissement de la sécurité dans son pays, miné par la violence des gangs. Gary Conil a accordé un entretien exclusif à RFI. Il est au micro de notre envoyé spécial permanent à Washington, Guillaume Nodin.
Bonjour Gary Conil.
Bonjour.
Vous avez été nommé il y a tout juste un mois. C'est votre premier voyage officiel. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à Washington? Des appuis financiers, des conseils pour diriger Haïti?
Nommé depuis un mois, mais installé, ça fait à peu près 2 semaines. Et j'ai un gouvernement, ça fait un peu plus d'une semaine et demie à peu près. La démarche de Washington rentre dans le cadre d'un effort que nous sommes en train de faire pour regalvaniser dans une certaine mesure la communauté internationale autour du dossier haïtien. Un, pour rappeler la situation d'Haïti où 80% du territoire de la zone métropolitaine est contrôlée par le gang, où la moitié de la population est en insuffisance alimentaire, où nous avons des problèmes qui sont très, très sérieux. Donc, ça fait partie de la démarche que nous sommes en train d'entreprendre pour nous assurer que la communauté internationale continue à nous accompagner.
Vous avez promis que l'État haïtien reprendrait le contrôle des quartiers occupés par les gangs avec l'appui de la mission internationale de soutien à la police nationale haïtienne. Il y a un premier contingent de policiers kényans qui est arrivé la semaine dernière à Port-au-Prince. Combien sont-ils à ce jour sur le sol haïtien ?
Il y a à peu près 200, un peu plus que 200 dans le premier contingent et on s'attend à ce que dans les prochaines semaines, ce chiffre augmente de manière significative.
Oui, car 2500 policiers de la force internationale doivent arriver à terme. Quand est-ce qu'elle sera au complet ?
C'est un processus qui est en cours. Je préfère ne pas parler de date exacte, mais ce que je peux vous dire, c'est que les partenaires haïtiens sont très engagés et sont en train de prendre toutes les dispositions pour que ça se fasse le plus rapidement que possible.
Oui, il y a des problèmes logistiques, des problèmes de logement, notamment pour ces policiers kényans.
Ce genre d'opération, en général, il y a toujours énormément de choses que nous devons résoudre, mais ce que moi j'ai vu et ce qu'on a compris dans les conversations que nous avons avec nos partenaires, c'est qu'ils comprennent bien l'urgence et ils sont très engagés à pouvoir offrir le support et l'appui qu'il faut pour que ça se concrétise.
Pour l'heure, ces policiers kényans notamment font quelques patrouilles, mais il n'y a pas d'opération d'envergure. Quand est-ce que cette force va commencer réellement à remplir ses missions ?
La mission de cette force est évidemment d'accompagner la police nationale qui n'a jamais cessé de faire des opérations. Donc le lead dans la reprise de ces territoires qui sont aujourd'hui occupés par les gangs, ça sera toujours la police et l'armée d'Haïti. Donc c'est nous qui allons décider à quel moment, dans quel contexte et comment cet accompagnement sera nécessaire ou à une valeur ajoutée. Évidemment, nous allons discuter avec eux pour voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir nous aider.
2500 hommes pour appuyer une police qui est en sous-effectif. En face, on estime qu'il y a plusieurs milliers de membres des gangs. Est-ce que c'est suffisamment dimensionné?
Je pense qu'il y a 3 considérations. La première, c'est que la sécurité, ce n'est pas seulement une affaire de police. C'est une intervention qui doit être beaucoup plus complète. Et le succès de l'opération ne peut que se matérialiser. La pérennité de l'intervention ne pourra se matérialiser que lorsqu'on aura pleinement réconcilié la police avec la communauté. Donc nous, quand on envisage les efforts que nous sommes en train d'entreprendre, on a cette vision-là. Il nous faut vraiment renforcer la capacité de notre police. Et ce que ces contingents nous permettent de faire, c'est de nous appuyer en même temps que nous sommes en train de renforcer nos effectifs. On vient de graduer 455 policiers des forces spécialisées. On va continuer à le faire de manière systématique. Donc, ce n'est pas une fin, l'accompagnement de la mission. C'est surtout, si vous voulez, un accompagnement bien spécifique et limité dans le temps, on l'espère, qui nous donne l'espace qu'il nous faut pour renforcer nos propres capacités.
Est-ce que cette lenteur relative du déploiement de la mission internationale de soutien, est-ce que cette lenteur permet aux gangs de s'adapter, de voir comment s'adapter à la force qui va leur être opposée, tout simplement.
Comme je vous disais tout à l'heure, la police nationale d'Haïti n'a jamais cessé de faire des interventions, n'a jamais cessé de protéger la population, évidemment avec les limitations que vous connaissez. Et donc, en ce sens, probablement, oui, je présume que les gangs sont en train de se positionner. Ça, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire pour sûr, c'est que quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, je vous assure que dans un délai pas trop lointain, l'État reprendra le contrôle de tout le territoire national.
Jimmy Cherizier, c'est un puissant chef de gang, que l'on appelle barbecue. Il a fait savoir qu'il était prêt au dialogue la semaine dernière. Est-ce que vos équipes ont des contacts avec lui ? Est-ce qu'on discute, quand on est le gouvernement d'Haïti, avec les gangs ?
Comme j'ai répondu à cette question il y a déjà quelques semaines, il faut d'abord déposer les armes et reconnaître l'autorité de l'État avant tout dialogue. C'est ça la première démarche. Vous déposez les armes, vous reconnaissez l'autorité de l'État et ensuite on verra.
Gary Conille, merci.
Merci à vous.
Le Premier ministre haïtien Gary Conille au micro RFI de Guillaume Nodin à Washington. Cet entretien, il est à retrouver en longueur, en audio et en texte sur notre site internet RFI.fr. À écouter aussi, bien sûr, dans notre journal d'Haïti et des Amériques à 13h, temps universel.
RFI, toute l'actualité, Arnaud Pontus.
6h20 à Paris, à la une, la politique en France, jour J-4 avant le second tour des législatives. Le dépôt des candidatures s'est refermé hier soir. Quelques 210 à 220 candidats se sont désistés pour éviter des triangulaires et donc faire barrage au Rassemblement National. Le RN qui espère toujours obtenir une majorité absolue de 289 sièges, mais il envisage désormais de former un gouvernement même avec une majorité relative en complétant avec des soutiens éventuels à droite. C'est ce qu'a indiqué hier Marine Le Pen. Au Royaume-Uni, les législatives, elles ont lieu demain. Les travaillistes sont les favoris des sondages après 14 années de pouvoir conservateur. Joe Biden pourra-t-il être candidat jusqu'au bout ? Les poids lourds du Parti démocrate s'interrogent sur l'état de santé et de forme du président sortant qui est candidat à sa réélection au mois de novembre. Interrogation renforcée par le calamiteux débat contre Donald Trump jeudi dernier. L'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, s'interroge aujourd'hui. Joe Biden doit rencontrer les gouverneurs démocrates. Le Proche-Orient, le ministère palestinien de la Santé, indique ce mercredi qu'une frappe israélienne dans le camp de réfugiés de Nour Shams, près de Tul Karem, dans le nord de la Cisjordanie, a fait 4 morts. Israël affirme avoir visé une cible terroriste. Notre invitée culture du jour est la metteur en scène et autrice Caroline Guyelan-Guyen. Au Festival d'Avignon, elle présente Lacrima, un voyage de Paris à Alençon en France jusqu'à Mumbai en Inde au travers du monde de la couture. Caroline Guyelan-Guyen, est avec Muriel Mahalouf.
Je suis la princesse d'Angleterre et je commandais Europe pour mon mariage qui aura lieu le 6 juin 2025.
Bonjour Caroline Guyelan-Guyen.
Bonjour.
Lacrima, votre dernière pièce, raconte la fabrication de la robe de la mariée et de la princesse d'Angleterre. Bon, tout ça n'est que fiction. Alors, comment cette pièce est née, cette idée, justement, autour de la fabrication d'une robe et du tissu?
Alors, en fait, au début, j'avais envie de parler de la question du secret. Voilà, et je suis tombée sur un article qui racontait, en fait, que la robe de Lady Di, son mariage, il y avait un contrat de confidentialité immense, que par exemple il y avait 2 robes qui ont été confectionnées au cas où il y en aurait une des deux qui fuiterait dans la presse, qu'on demandait aux gens qui travaillaient dessus le soir de mélanger les chutes de tissu avec d'autres chutes de tissu pour pas qu'on découvre en fait dans quelle matière elle était réalisée. Et en fait j'ai trouvé ça assez étonnant, cet immense secret comme ça, quasi d'état sur une robe. Voilà, et c'est comme ça que du coup après je me suis dit ben tiens, et si le trajet du spectacle c'était l'histoire de cette robe qui allait passer comme ça demain à une autre. Et en fait, en enquêtant, je me suis rendu compte qu'il y avait les ateliers parisiens qui allaient confectionner la robe. J'avais eu aussi envie d'imaginer un voile et donc du coup, je suis allée à Alençon, là où il y a la dentelle d'Alençon. Donc je me suis rendue là-bas, j'ai beaucoup rencontré les dentelières. Et puis après, j'ai découvert, alors au dernier moment dans mon écriture, que les broderies étaient faites en Inde. Et c'est comme ça que je me suis rendue à Mumbai et où j'ai découvert en fait la réalité du travail de ces hommes-là. Et donc c'est comme ça que j'ai imaginé la confection de cette robe sur 3 territoire, Paris, Alençon et Mumbai.
Et dans ce savoir-faire autour de la couture et des tissus, il y a beaucoup de femmes, sauf que les brodeurs sont des hommes.
Exactement.
Et la pièce s'intitule Lacrima, qui veut dire larme.
Ouais.
Comment est venu ce titre ?
J'avais imaginé par exemple l'ouvrage, ou alors la beauté du geste. Et en fait, je trouvais que c'était moins fort que finalement Lacrima. Ça racontait quelque chose de plus global sur le spectacle. Et puis, il y a une phrase qui est dite à la fin par un des personnages qui est, en Chine, en fait, il ne faut jamais défaire le tissage d'une soie parce qu'en fait, dans le tissage et dans les nœuds se logent les larmes d'une époque. Et voilà. Du coup, je me suis dit, oui, ça raconte bien le spectacle, donc Lacrima.
Alors, c'est une pièce qui met aussi en avant des ouvrières et des ouvriers, véritablement, comme on l'entend, hein, dans un travail d'usine physique, difficile, où on perd la vue, on a des arthroses. Alors, c'est tout le drame, hein, de ces petites mains. Pour créer la beauté.
Alors oui, ça raconte le drame, ça raconte la violence surtout, qu'elle soit intime, qu'elle soit politique, sociale, géopolitique, et aussi ça raconte le savoir-faire. C'est-à-dire que pour moi, c'était important de mettre au plateau des personnages qui à la fois étaient victimes de choses très dures, très violentes. Et pour autant, à côté, c'est tous les personnages ont aussi de l'or dans les mains, c'est ce que dit un autre personnage dans la pièce, et que finalement, ces personnages participent à la beauté du monde. Et j'avais besoin de leur mettre ce savoir-faire-là, cette puissance-là aussi dans leurs mains.
Alexander, je comprends votre colère, mais je ne peux pas être responsable de tout.
Marion, this is my fucking dream.
Je sais, Alexander, mais je sais que cette robe, elle va être magnifique.
Ce sont des gens qui sont invisibles. On voit les robes, par exemple à Cannes, tout ça, mais on ne connaît pas les gens qui sont derrière. Donc c'est important pour moi de montrer finalement des gens ou des dessins qu'on ne voit pas et de voir comment est-ce que quand ils sont racontés sur le plateau, face à un spectateur, finalement on lui adresse cette question qui est « Y a-t-il quelqu'un ici pour écouter ma peine ?» C'est ça, je crois, moi qui m'anime dans le théâtre.
Merci.
Merci.
Un entretien réalisé à Avignon par Victor Hull et Muriel Malouf, Lacrima de Caroline Guélan-Guyenne, se donne jusqu'au 11 juillet au Festival d'Avignon. Et on est au Festival d'Avignon cet après-midi dans Vous m'en direz des nouvelles avec Jean-François Cadet. Parmi ses invités, le metteur en scène et comédien Gwenaël Morin qui présente sa création Quichotte, d'après l'œuvre de Cervantes, bien sûr.
Le Conseil Santé avec Sounou Assurance.
Le Conseil Santé du jour, Chantal Leroux et son invité parlent du sentiment d'incompréhension.
Docteur Marie-Claude Gavard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre, psychothérapeute et psychanalyste à Paris. Qu'est-ce que le sentiment ou la conviction d'être incompris peut avoir comme conséquence en termes de santé mentale ?
Mais c'est souvent extrêmement douloureux parce que c'est très fréquemment chronique, c'est-à-dire qu'on se sent constamment incompris par certaines personnes, surtout les proches, les collègues, etc. Et ça peut aller jusqu'à une dépression.
À quel moment ce sentiment d'être incompris, justement, exprimé par quelqu'un de notre entourage, doit alerter ? Quels sont les signaux ? Juste le fait que la personne vous dise « personne ne me comprend, je me sens incompris ».
Alors, lorsque on reçoit une critique, par exemple, c'est important de voir si elle semble réaliste. Si beaucoup de personnes nous disent la même chose, ton comportement quand tu fais ça est désagréable, quoi. Bon, là, on peut se poser la question de ce que l'on fait qui peut déplaire. Mais il y a aussi des tas de critiques qui sont fausses. C'est-à-dire que la personne qui critique ne supporte pas que l'autre soit différent. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention de ne pas se dévaloriser lorsqu'on est critiqué, même souvent par plusieurs personnes. Il faut savoir ce que ça signifie. Et perdre confiance en soi, c'est vraiment très embêtant.
Dans ce cas, il est impératif d'aller consulter, de se faire aider ?
Alors, impératif, c'est difficile parce qu'il y a quand même pas suffisamment de médecins ni de psychiatres, donc c'est difficile. Mais au moins savoir que on n'a pas forcément tort, on peut être différent des autres. Souvent, il faut assumer cette différence. Et si on trouve qu'on est souvent critiqué en disant « tu es agressif », etc., c'est se remettre en question. Et vraiment, ce qu'on a tous intérêt à faire, c'est donner notre mode d'emploi, expliquer et demander à l'autre ce qu'il attend de nous. On n'est pas obligé de faire ce que l'autre attend de nous, mais au moins la discussion, sans agressivité.
Merci beaucoup, docteur Marie-Claude Gavard. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous parlerons du bégaiement.
Eh bien, tout à l'heure, Chantal Leroux, Priorité Santé, 11h10, heure de Paris, 9h10, temps universel. Vous restez avec nous sur la radio du Monde dans une minute tout juste. Un nouveau journal, l'actualité africaine.
Ce mercredi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Le nord-est de la Grèce se rêve en nouveau carrefour gazier pour l'est de l'Europe et les Balkans. Aux côtés du gazoduc vers la Bulgarie, Alexandroupolis pourrait être la nouvelle porte d'entrée du gaz naturel liquéfié.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU sur RFI.
l'Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker.
L'Afroclub, c'est le terrain des musiques modernes d'Afrique et de sa diaspora, avec d'abord une sélection des derniers sons de la nouvelle scène. Des artistes locaux aux stars internationales, vibrez au rythme des musiques urbaines. Et dans notre rubrique Actu, ne manquez rien de ce qui fait bouger les arts et la culture sur le continent.
Chaque mercredi, retrouvez l'Afroclub et faites le tour des tendances musicales afro-urbaines avec musique.rfi.fr.